Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce jeudi 17 juin. Bertrand Tonganamé pour vous accompagner dans ce programme dans lequel on parlera de l'économie australienne en ce milieu de semaine. Nous parlerons jazz également avec un concert qui aura lieu ce week-end à Sydney et qui comprend notamment des œuvres inspirées par Camus. Mais tout de suite, le journal de ce jeudi qui sera suivi par le magazine des sports de Jean-Noël Ducasse. Des tests génomiques montrent que deux cas de COVID-19 à Sydney sont de la variante Delta, alors que les autorités exhortent les habitants à faire preuve de prudence. Et premier sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève. Et en France, levée des restrictions sanitaires plutôt que prévu sur fond de campagne électorale. En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités sanitaires avertissent les habitants des quartiers est de Sydney de faire preuve de prudence après la détection des deux nouveaux cas de COVID-19. Les autorités ont répertorié des dizaines de sites d'exposition après qu'un homme soit devenu un nouveau cas dans la région de Bondi. L'homme en question est un chauffeur d'une soixantaine d'années. Sa femme a également été testée positive alors que le cas d'un homme dans la quarantaine fait l'objet d'une enquête pour déterminer s'il s'agit d'une infection ancienne ou d'un faux positif. La médecin hygiéniste en chef, le docteur Kerry Chant, a déclaré que le chauffeur affecté au travail des équipages internationaux avait contracté la variante Delta du Covid qui a été signalée pour la première fois en Inde.
This strain does not match anything that's been uploaded in Australia at this time, but it does match perfectly a sequence that's been uploaded from the US.
Et le Victoria s'apprête à assouplir davantage son dernier confinement ce jeudi. Entre-temps, on signale que sur 25 600 tests effectués hier sur l'ensemble du Victoria, aucun cas nouveau de contamination locale de coronavirus n'a été détectée. Et les restrictions sanitaires seront allégées à partir de ce jeudi à minuit. Et ainsi, les masques ne seront plus obligatoires à l'extérieur, tandis que la limite de déplacement de 25 km pour les habitants du Grand Melbourne sera supprimée. Les habitants de Melbourne pourront désormais aussi recevoir jusqu'à 2 visiteurs à leur domicile, tandis que les rassemblements en plein air peuvent compter jusqu'à 20 personnes. Les gymnases, les divertissements en intérieur et les salles de jeux électroniques pourront rouvrir également. Certains experts de la santé ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la transmission de COVID-19 se produit toujours dans la communauté. De leur côté, les entreprises continuent de faire pression sur le gouvernement pour une réouverture totale et rapide. Le gouvernement a déclaré qu'il réexaminera les restrictions dans une semaine. Et le gouvernement du Victoria a annoncé également qu'il va débloquer une aide financière pour les ménages privés d'électricité suite aux grosses tempêtes qui ont endommagé le réseau électrique depuis plus d'une semaine. Au moins 7000 ménages du Victoria n'ont plus d'électricité. Et environ 3000 foyers dans le Dandenong Ranges ont été informés qu'ils pourraient être privés de courant jusqu'au 10 juillet prochain. Le gouvernement du Victoria a demandé le soutien des forces de défense australiennes pour faire face à cette situation. Entre-temps, le fournisseur d'électricité AusNet a présenté ses excuses à ses clients pour le retard. Et le premier ministre par intérim du Victoria, James Merlino, a déclaré que les ménages touchés ont droit à une aide financière allant jusqu'à 1 680 $ par semaine.
So this will go towards whether it's basic supplies or whether it's to help support people find alternative accommodation off the hill as power is restored over coming weeks.
Et en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier la levée de mesures sanitaires plus tôt que prévu. Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire sur l'ensemble du territoire dès ce jeudi 17 juin, sauf dans certaines exceptions. Le couvre-feu sera levé dimanche prochain. Des mesures justifiées par le Premier ministre par la baisse des contaminations. Anthony Latier pour RFI.
Première décision importante, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir de demain en France, sauf dans les cas de regroupement dans les files d'attente, les lieux bondés ou sur les marchés par exemple. Deuxième annonce, la levée du couvre-feu à 23h interviendra dès dimanche, c'est 10 jours en avance par rapport au calendrier prévu. Accélération du déconfinement donc parce que la situation s'améliore, a dit Jean Castex. On est passé sous la barre des 5000 nouveaux cas par jour et la vaccination progresse. Le chef du gouvernement fixe un nouvel objectif. 35 millions de personnes devront avoir reçu leur seconde dose d'ici à la fin du mois d'août. Il faut continuer, continuer, continuer à vacciner, a martelé le Premier ministre, qui ne boudait pas son plaisir en faisant cette courte déclaration. C'est un moment important, un moment heureux. C'est même réjoui celui qui a si souvent dû annoncer les mauvaises nouvelles aux Français ces derniers mois.
Il faut signaler que la France était l'un des trois derniers pays en Europe à imposer un couvre-feu. Il était entré en vigueur le 30 octobre à 21h dans toute la métropole. Cet allègement est le plus important depuis le deuxième confinement. Et dans la foulée des bonnes nouvelles annoncées par le Premier ministre sur le front sanitaire, Jean Castex a enchaîné sur la campagne des élections régionales du week-end prochain, surfant allègrement sur la bonne nouvelle. Pour Julien Chavan de RFI, Jean Castex assume sa double casquette.
Même en campagne, le Covid n'est jamais loin avec Jean Castex.
Vous allez vous faire vacciner ou c'est fait ?
Moi, pas encore. Après,
faites-le. Je ne peux que vous le conseiller. Tardez pas. Ça, ce sera fait.
Ça sera fait.
Après avoir annoncé c'est l'abandon du masque en extérieur et la fin avancée du couvre-feu, le Premier ministre entend bien surfer sur ses bonnes nouvelles dans ses derniers jours de campagne.
Je pense que les Françaises et les Français mesurent que dans la gestion de cette crise sanitaire, nous avons fait nos meilleurs efforts.
La gestion de la crise sanitaire comme argument de campagne dans une élection pourtant locale, Jean Castex assume sa double casquette.
Je suis le Premier ministre, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt, jamais. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
Certains macronistes poussent pourtant pour un changement à Matignon après les régionales, histoire de tourner la page du Covid. Jean Castex évacue.
J'assume tout, le choix appartient au président de la République, moi je suis au service de mon pays.
Le sort du Premier ministre ne serait pas dans la balance. Emmanuel Macron l'a dit à ses ministres, il ne tirera pas de leçons nationales et gouvernementales de ces élections, alors que le Rassemblement national est aux portes de plusieurs régions.
Et Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est attendu en Côte d'Ivoire ce jeudi 17 juin. L'ancien président s'apprête donc à fouler le sol de son pays près de 10 ans après son extradition à La Haye, où il a été acquitté des charges qui pesaient contre lui en mars dernier. Pour Pierre Pinto de RFI à Abidjan, cet événement est attendu de pied ferme par les partisans de Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo sera accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan dès son arrivée en milieu d'après-midi par un vol commercial. Plusieurs dizaines d'invités triés sur le volet l'y attendront. Y aura-t-il des membres du gouvernement ? A priori non, à entendre la réponse du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, ce mercredi après-midi à l'issue du Conseil des ministres.
Monsieur Gbagbo rentre dans son pays. Donc pour nous, c'est une arrivée normale d'un citoyen qui revient dans son pays. Je ne crois pas que M. Henri Konan Bédié, qui a été ancien chef de l'État, bénéficie à chacun de ses retours d'une présence de l'exécutif.
Selon le FPI Pro Gbagbo, le public pourra accéder à certaines zones près de l'aéroport pour attendre et saluer Laurent Gbagbo. Après l'accueil solennel, l'ancien président doit effectuer un grand tour dans la ville. Selon un trajet dévoilé par son parti, le cortège passera par Trècheville, par le pont de Gaulle, puis le plateau, enfin direction Cocody-Angré, avant de se diriger vers l'ancien QG de la campagne de 2010, situé à Atoban, où Laurent Gbagbo rencontrera les membres de la direction du parti. Quel sera le dispositif sécuritaire mis en place ? Rien n'a été dévoilé à ce sujet.
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus hier pour la première fois à Genève. Les pourparlers à huis clos ont duré un peu plus de 3 heures. Le seul signe un peu concret de cette rencontre aura été un certain dégel entre les deux puissances, marqué par le retour de leurs ambassadeurs respectifs. le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu'une décision de rouvrir les frontières de l'Australie sera progressive et ciblée sur les aspects qui profiteront de plus à l'économie du pays. M. Morrison a déclaré à Sky News que le succès des programmes de vaccination contre le COVID-19 en Europe, donc, éclaireront sa décision. Il a précisé que la réussite des réouvertures attendues en Europe au cours de l'été prochain influencera donc sa décision de relancer des voyages internationaux en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué qu'en plus de ramener les Australiens bloqués à l'étranger, sa priorité est de répondre aussi à la carence de main-d'œuvre du pays par le biais de la migration.
And so we've got to find practical ways to solve those problems over the next 12 months. And that's what other countries are trying to do. So whether it's that or whether it's the student pilots we're doing, it's the gradual process of opening things up safely, but also in a way that is targeted on the things that will give us the biggest benefit for our economy in doing so.
La plupart des travailleurs les moins bien payés d'Australie auront une augmentation de près de 20 dollars par semaine. Cette augmentation résulte d'une décision de la Fair Work Commission d'augmenter le salaire minimum australien de 2,5%. Le salaire de base s'élèvera désormais à 772 dollars par semaine, soit 20,33 dollars de l'heure. Les travailleurs des secteurs de l'aviation, du fitness, du tourisme et de la vente au détail verront leur augmentation de salaire retardée jusqu'à la fin de l'année, mais d'autres travailleurs en retireront davantage à partir du 1er juillet prochain. Le changement affecte quelques 2,3 millions de travailleurs australiens. Des représentants du patronat ont exprimé de leur côté des inquiétudes quant à cette augmentation qu'ils estiment trop élevée. Et un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth à 19 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 10, Canberra 11, Wollongong 19, Sydney 19 également, Newcastle 19, Brisbane 21 degrés, Cairns 29 et Darwin 31 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, les tests génomiques montrent que deux nouveaux cas de COVID-19 à Sydney sont de la variante Delta, alors que les autorités exhortent les habitants à faire preuve de prudence. Premier sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève. Et en France, levée des restrictions sanitaires plutôt que prévu sur fond de campagne électorale.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot, l'Euro hier, la deuxième journée en groupe A. L'Italie s'est imposée contre la Suisse 3-0. On écoute Leonardo Bonucci, le défenseur italien. Il est ravi d'être dans cette équipe italienne.
C'est la meilleure équipe d'Italie dans laquelle j'ai joué. Depuis des années, le sélectionneur a impliqué beaucoup de joueurs dans ce groupe et à aucun moment il ne s'est trompé. Cela veut dire que les nouveaux appelés ont pu bénéficier de l'expérience des plus anciens. Ce même groupe est donc uni, il est proche. Nos bons résultats ne sont pas le fruit du hasard. C'est grâce à ce mélange, un mélange de jeunes joueurs, de presque vieux et de vieux joueurs qui sont ensemble depuis longtemps et heureux de se retrouver. Ça fait des années qu'on n'avait pas connu une telle ambiance. J'espère vraiment qu'on ira le plus loin possible.
Dans les autres matchs, le Pays de Galles a battu la Turquie 2-0 et dans le groupe B, la Russie s'est imposée contre la Finlande 1-0. Mardi, les Bleus ont battu l'Allemagne 1-0. L'Allemand Hummel a marqué contre son propre camp. Hugo Moissonnier, Radio France Internationale.
Bien l'entrejeu qui a permis à la France de l'emporter, un entrejeu dans lequel a rayonné Paul Pogba, l'homme du match. C'est lui qui signe l'ouverture extérieure, pied droit vers la gauche, vers la 20e minute pour lancer Lucas Hernandez. Le centre, Mats Hummels, le défenseur allemand, catapulte le ballon dans ses propres filets. 1-0, un score qui ne bouge plus ensuite. L'Allemagne, certes, pousse, procure des occasions, mais des situations plutôt, parce qu'elle a du mal à vraiment se montrer dangereuse, cette Mannschaft. Les Bleus défendent bien, ils défendent en équipe. Mbappé, avec sa vitesse bien sûr, aurait pu se procurer un pénalty. Il aurait également pu être passeur décisif pour Benzema. Le but est refusé en seconde période. Voilà des petites décisions arbitrales qui feront des débats dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, l'attaque française, elle se contente d'un but marqué par un défenseur adverse pour la victoire de l'équipe de France. Un match qui aura surtout souligné la solidité de ces Bleus. Ils assument leur statut de favoris de l'Euro et c'est pas mal, hein, puisqu'ils sont dans le groupe de la mort, on le rappelle. Il y aura la Hongrie samedi, ça s'annonce relativement facile, même si ce sera en Hongrie dans un stade plein. Et puis il faudra confirmer contre le Portugal, et pour l'instant c'est le Portugal qui est premier du groupe de la France, mais la France réussit son entrée dans cet Euro.
L'homme du match, c'était Paul Pogba, selon Antoine Grenier, qui était sur place pour RFI.
Et oui, il a changé la face du match d'un extérieur du pied vers Lucas Hernandez à la 20e minute. Pogba, le milieu français, était sûrement le seul à avoir vu son latéral gauche oublié près de la surface. Hernandez centre fort et son ballon heurte le tibia de Mats Hummels avant de finir dans les filets allemands. Pogba qui aura régné en maître sur le milieu de terrain, bien aidé par N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, impériaux eux aussi. Désigné homme du match, Pogba préférait cependant relever l'aspect collectif de la prestation française.
It was very important to start with the win, with the 3 points. And obviously we play against Germany. Everybody knows about Germany. Very, very good team. They put us in trouble today. But now we were strong. We were strong and we went to get this win very hard.
Voilà, un match au cours duquel Pogba a quand même piqué une grosse colère, accusant Antonio Rüdiger, le défenseur allemand, de lui avoir mordu le dos. Un geste que l'arbitre n'a pas vu, mais finalement, c'est lui, Pogba, qui, en plus du talent, a montré qu'il savait montrer l'écrou.
Et maintenant, on écoute la réaction de quelques supporters. Ils étaient à Paris, ils sont sur European Broadcasting Union.
Très belle victoire quand même.
On est fiers. Et
allez, Benzema !
On est fiers.
Allez, les Bleus !
Allez, les Bleus ! Allez,
allez, allez, tout par la maison !
Dans les autres matchs, victoire du Portugal contre la Hongrie, 3 buts à 0, doublé de Cristiano Ronaldo. On écoute l'analyse d'Annie Gasnier et de Naïm Moniol de Radio Foot International.
Le Portugal, ça a mis du temps à se dessiner. On a cru qu'ils allaient commencer comme en 2016 par un match nul.
Non, mais c'est surtout que le score, en fait, ne reflète pas le match.
83e minute, hein.
84 même.
Le premier but.
84 même. Oui, parce que sur l'essentiel du match, le Portugal a eu la possession des occasions, mais a fait beaucoup de mauvais choix. Ronaldo, qui marque un doublé, fait pas un grand match, paradoxalement. Bernardo Silva est pas bon. Bruno Fernandes n'est pas bon. Diogo Jota a raté beaucoup, beaucoup de choses. On aurait dit Morata contre l'Espagne, donc. Le Portugal à l'usure, et puis aussi parce que je pense que le but refusé à la Hongrie leur a mis un petit coup derrière la carafe. Donc à l'usure, ils ont réussi à se faire avoir. L'entrée de Renato Sanchez a été déterminante, ouais, aussi dans le travail.
Trop tardive, peut-être, sans doute.
Très tardive, oui. C'est vrai qu'il aurait pu rentrer avant. Mais les changements sont très tardifs, hein, globalement, sur 7 euros, je trouve. Et le dernier but est très beau dans sa construction, rien à dire. Mais c'est vrai que le Portugal a pas tellement rassuré finalement, parce que fournir une copie comme ça face à l'adversaire le plus faible, derrière il faut prendre la France, il faut prendre les Allemands, et des Allemands qui ont perdu un match, donc qui vont devoir engranger des points.
Ça sera le prochain match. Hein.
Sincèrement, à la fin du match, on se dit pas qu'il y a des lendemains qui chantent pour le Portugal.
Et puis Cristiano Ronaldo a écarté deux bouteilles de Coca qui étaient placées devant lui lors de sa conférence de presse, et Paul Pogba aussi a écarté une bouteille de bière de marque partenaire de l'Euro 2021. Explication de Ariane Gaffuri pour RFI.
De l'eau, dit Cristiano Ronaldo en brandissant une bouteille d'eau après avoir repoussé les deux bouteilles de Coca-Cola disposées devant lui. Un geste de quelques secondes qui a coûté 4 milliards de dollars à Coca-Cola. Faut dire que Ronaldo, c'est non seulement le meilleur buteur de toute l'histoire de l'Euro devant Platini, c'est 400 millions de fans sur les réseaux sociaux. Vincent Claudel, économiste spécialiste du football chez Ineum Consulting.
L'impact de ce geste de Cristiano Ronaldo par rapport à Coca-Cola, mais on peut même dire aussi de Paul Pogba hier par rapport à la bouteille de bière qu'il a également écartée, pose la question du sponsor d'un événement par rapport aux acteurs eux-mêmes du jeu. Coca-Cola ou Heineken ont misé 40 à 50 millions d'euros pour être des partenaires de l'UEFA ou de la compétition. Et à travers ce geste, même si l'organisateur leur confère des droits et une visibilité, eh bien, ils sont remis en cause par les acteurs du jeu eux-mêmes. Donc c'est peut-être une question qui est posée sur l'avenir du sponsoring.
La défiance de Ronaldo envers Coca-Cola ou de Paul Pogba envers Heineken, si elle marque une nouvelle tendance pour l'alimentation saine, risque toutefois d'être sévèrement sanctionnée.
Et puis les qualifications de la Coupe du Monde de 2022 avec les Socceroos qui ont gagné contre la Jordanie mardi 1-0. Et puis en marge des matchs de préparation pour les JO de Tokyo, chez les dames, les Matildas et la Suède ont fait match nul 0-0. Un mot de natation, sélection olympique australienne à Adélaïde et un record du monde établi cette semaine pour le 100 mètres d'eau par Kayleigh McEwen, âgée de 19 ans. Elle l'a fait en 57 secondes et 45 centièmes. Un mot de tennis où Roger Federer, le Suisse, a été sorti en trois manches à Halle au deuxième tour hier par le Canadien Félix Auger-Aliassime. Précision d'Éric Chorin pour RFI.
Il en rêvait depuis tout petit, jouer un jour contre Roger Federer, son idole et son aîné de 19 ans. Le vœu de Félix Auger-Aliassime, 21e joueur mondial, est désormais exaucé. Et en plus, le Canadien d'origine togolaise l'a emporté 4-6, 6-3, 6-2 face aux Suisses, 10 fois vainqueur du tournoi allemand.
C'est incroyable, c'est une victoire incroyable. Bien sûr, je l'espérais, j'espérais gagner. Mais vous savez, Roger, pour moi, c'était comme pour beaucoup de jeunes, mon idole de jeunesse. Je rêvais de jouer un jour contre lui avant qu'il ne se retire. C'est tellement fort que cela ait pu avoir lieu. Il a gagné ses premiers grands chelems quand je n'avais même pas 5 ans. Petit, je me disais que de devenir un joueur professionnel, ce serait déjà fantastique. Au départ, je ne pouvais même pas imaginer jouer un jour contre lui. Je ne pensais pas que j'atteindrais ce niveau un jour. Alors me retrouver aujourd'hui sur le même court face à lui et gagner, en plus, c'est vraiment, vraiment un honneur pour moi.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie.
Et c'était Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur les antennes de la radio SBS. Dans le programme, nous allons parler jazz avec un concert de Chris Cody, ce chanteur jazz donc australien. Mais il a un concert prévu ce week-end à Sydney avec des œuvres notamment inspirées par Camus. À présent, on va passer à une courte pause, mais restez à l'écoute car après la pause, ce sera le temps de décrypter l'état de santé de l'économie australienne en ce milieu de semaine.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Marie.
Beaucoup plus de travailleurs étrangers pourraient bientôt commencer à venir en Australie après un accord entre le Parti libéral et le Parti national.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est selon le numéro 2 du Parti national, David Littleproud, qui dit qu'il est arrivé à un accord avec le Premier ministre Scott Morrison vis-à-vis des travailleurs pour venir travailler sur les fermes en Australie. Donc ça serait un nouveau visa. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les fermiers poussent depuis assez longtemps d'avoir un visa spécifiquement pour aider avec la récolte. Donc ça, c'est bien avant la pandémie, bien avant Covid, qu'ils veulent ça. Mais même avant cette pandémie, il y avait 70% des gens qui travaillaient sur les fermes étaient des travailleurs étrangers. Et il y en avait, parmi ça, il y avait des travailleurs des îles du Pacifique, mais aussi à peu près 10 000 qui venaient du Royaume-Uni. Donc il dit, Monsieur Lil Pratt, que cet accord, ça va permettre beaucoup plus de travailleurs de venir. Et c'est pas seulement lié à l'accord d'échange libre qui vient d'être annoncé cette semaine entre l'Australie et le Royaume-Uni. Il dit que c'est un mécanisme séparé et à part de ça. Mais il veut laisser au Premier ministre Scott Morrison de faire l'annonce. Donc on attend cette annonce, mais en même temps, l'industrie estime que bon, cette année, il y a eu un manque de travailleurs sur les fermes d'à peu près 26 000 à cause des frontières qui sont fermées à cause de Covid. Donc voilà, ce nouveau visa, ce ne serait pas juste pour allonger les arrangements qui existent avec les îles du Pacifique, mais vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus global. Les fermiers, eux, ils disent que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils attendent ça. Ça fait plusieurs années qu'ils demandent ça. Donc, on pourrait bientôt voir un gros changement dans ce secteur.
Et puis, encore un autre État qui annonce que les produits en plastique à usage unique seront bientôt interdits.
Voilà, donc c'est en fait l'Australie du Sud qui était le premier à interdire les choses comme les pailles en plastique, les tasses de café en plastique, et ils avaient interdit ça en mars, en fait. Et maintenant, c'est l'Australie occidentale qui annonce qu'à la fin de l'année, ils vont interdire plein de choses comme les pailles en plastique, les bols en plastique, les assiettes en plastique, etc. Et puis l'année prochaine, ça sera beaucoup plus d'autres choses comme les tasses de café en plastique, etc. Donc c'est intéressant parce que pour beaucoup de business, ça va être en fait un grand défi de pouvoir trouver des alternatives. Donc on pense déjà à des cafés. Pour eux, ça va être un gros changement, mais aussi, par exemple, pour les petits restos de sushi qui utilisent énormément de plastique, non seulement pour le sushi lui-même, mais pour des bols, pour les nouilles, pour le bubble tea qui est très populaire aussi, les pailles, les couteaux, les fourchettes, tout ça c'est en plastique. Donc ils estiment que pour acheter des conteneurs, des produits qui sont bio, ça va leur coûter à peu près le double. Donc pour eux, ils disent que c'est inévitable, qu'ils vont devoir monter leur prix, et donc c'est les consommateurs qui vont payer ça. Mais il y en a qui disent, bon, en même temps, on reconnaît que c'est nécessaire, qu'on produit beaucoup trop de plastique, donc ils cherchent des façons de le faire parce que ils savent que c'est bien pour l'environnement, donc ils veulent aider. Pour les gros supermarchés, c'est différent. En Australie du Sud comme en Australie occidentale, ils n'ont pas encore décidé qu'ils allaient interdire les gros supermarchés d'utiliser du plastique pour emballer la viande, par exemple, ou même les fruits et les légumes. Mais ils ont signalé quand même, les gouvernements, que c'est ça qu'ils vont cibler prochainement. Mais ça va être très grand comme entreprise. Ça sera pas juste à les supermarchés de changer ça, mais à les producteurs aussi. Donc ça sera la prochaine étape à voir.
Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Le Metec avec Pat Kala et le Super Mojo sur les antennes de la radio SBS à 13h40, 7 secondes. À présent, on va passer à une pause, mais après la pause, restez avec nous. Nous allons retrouver Jean-Noël Ducasse en conversation avec Chris Cody. Ils vont nous parler jazz en marge d'un concert de jazz qui aura lieu à Sydney ce week-end.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau sur les ondes de SBS French Chris Cody, le musicien de jazz australien. Bienvenue à nouveau, Chris.
Oui, bonjour Jean-Noël.
Et on parle du concert de ce samedi prochain, le 19 juin, c'est au Mary's Underground, autrefois c'était The Basement, c'est à Circular Quay, et la présentation de votre nouveau projet, The Outsider, j'imagine inspiré de diverses influences, y compris l'œuvre de Camus.
C'est exact. Camus, c'est une grande influence pour moi quand j'étais jeune, plus jeune, quand j'avais 16, 17 ans ici au lycée en Australie. C'était sur notre liste de textes et ça m'a énormément inspiré, ça m'a beaucoup touché à l'époque. Et c'était surtout pendant cette période de lockdown et de Covid, la pandémie l'année dernière, où je trouvais que mes pensées retournaient à Camus. Et j'ai relu un petit peu et voilà, c'est une source d'inspiration pour cette nouvelle musique que j'ai, une nouvelle suite de morceaux de jazz que j'ai composé pour mon octet.
Et d'après ce que je comprends aussi, des inspirations aussi de vos explorations musicales avec des musiciens africains, arabes, quand vous habitiez en France.
Oui, c'est ça, parce que j'ai vécu à Paris pendant plus de 20 ans. Et une des plus grandes richesses musicales pour moi, c'était justement la rencontre avec des musiciens africains de pays divers en Afrique, des musiciens maghrébins, des musiciens un peu de partout dans le monde. Mais c'était tout le milieu africain que je trouvais quand même très riche, très coloré. Moi, je connaissais bien le monde classique, le monde du jazz. J'avais vécu à New York un petit peu, mais je connaissais pas si bien que ça la musique africaine et nord-africaine. Et donc, j'ai joué avec certains musiciens à Paris qui étaient dans ce milieu-là. Donc, pour revenir à The Outsider, je me suis dit, vu que Camus lui-même était d'Algérie, et je suis allé voir justement où il a vécu son lycée. Pendant une tournée que j'ai fait il y a quelques années, et puis avec la pandémie, il y avait un certain confluence d'idées ou d'inspiration pour essayer de réunir ces inspirations musicales, donc jazzistiques, classiques, africaines, maghrébines, et avec les pensées de Camus, le grand écrivain, et essayer d'exprimer en sorte, pas vraiment ses pensées, mais plutôt mes émotions, et puis j'imagine les émotions, les réactions de beaucoup de gens pendant cette période de pandémie. C'est-à-dire comment on fait face à la maladie, à la peur, à la mort même. Est-ce qu'on se renferme complètement, ou est-ce qu'on essaie de bouger, de réagir, de révolter?
Donc, c'est une façon pour vous d'explorer la résilience, l'espoir et autres?
Tout à fait. La résilience, l'espoir, parce que c'est marrant, parce que quand je parlais de mon projet à mes proches, ils disaient, oh là là, ça allait un peu dur tout ça, ça va être un peu déprimant, non? Mais en fait, non, c'est le contraire, parce que pour moi, c'est plutôt une réaffirmation de la vie, de la révolte, de l'importance de justement de se centrer sur les choses essentielles dans la vie, l'amour, les relations, ce qu'on peut faire, pas ce qu'on peut pas faire. Donc même dans les titres de mes morceaux, il y a des références comme Waiting, en attendant, mais aussi La Vérité. Il y a Procession, en fait, qui rappelle des funérailles que j'avais vues en Afrique, mais une procession de funérailles, mais très très joyeuse, en pleine campagne africaine, avec des chants et des danses et tout ça. Puis un autre morceau, ça s'appelle Anticipation. Évidemment, on est tous un peu en attente et l'anticipation de qu'est-ce qui va nous arriver, est-ce qu'on va tomber malade, est-ce qu'on se bloque, est-ce qu'on se paralyse, ou est-ce qu'on bouge encore et on crée, on lit, on continue à s'exprimer, et notre condition humaine, comme dirait Camus. Et puis bien sûr, il y a un morceau qui s'appelle The Outsider, parce que je pense que dans un sens, on se sentait tous un peu déchirés, un peu exclus à un moment, depuis ces 18 derniers mois, mais c'est en même temps, on est tous ensemble. C'est un cliché, mais il faut se le rappeler en même temps, parce que c'est tellement bizarre et surréaliste par moment ce qu'on vit. Donc voilà, j'ai cherché surtout à exprimer à travers l'inspiration des mots et des pensées, musicalement aussi ce qu'on ressent. Et c'est, il y a des moments évidemment où c'est, ça peut être la, la solitude, la calme, une certaine tristesse, mais c'est aussi la réaction, la révolte, la joie, l'exubérance et tout ça. Donc moi, je le vois justement après. J'ai fait un premier concert avec mon quartet et les gens qui ont beaucoup aimé me disaient « Oh, mais c'était beaucoup plus joyeux et plus affirmatif que je pensais. » Donc c'était un peu ça aussi mon but.
Et donc, Chris, vous avez tout un line-up de musiciens pour vous accompagner dans ce nouveau projet.
Oui, j'ai réuni les musiciens avec qui je travaille depuis plus de 25 ans, qui faisaient partie du premier Chris Cody Coalition. Lloyd Swanton à la contrebasse, qui est connu pour son travail avec The Next et sa musique avec d'autres groupes, un très grand contrebassiste australien. James Greening, un tromboniste qui est très exubérant justement, et qui exprime bien cette joie et cette affirmation de soi et de la vie. Dans son jeu, dans sa personnalité. Il y a James Waples à la batterie avec qui j'ai énormément travaillé aussi. Michael Evgenikos, un saxophoniste qui faisait partie de mon quartet. Et puis les nouveaux membres, il y a une trompettiste australienne qui est revenue à cause justement de Covid aux États-Unis, qui est revenue vivre en Australie. Elle n'avait pas trop le choix et donc elle est, ben, pour nous, c'est une chance. Elle travaillait à New York pendant 17 ans. Avec les plus grands musiciens là-bas, qui s'appelle Nadia Nordhaus, donc voilà, qui va jouer avec nous ce samedi. Et puis un joueur de oud, cet instrument merveilleux du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Ouais. Et lui, c'est un Syrien, il s'appelle Adnan Baraki. Et enfin, un percussionniste turc qui va rajouter encore ses couleurs, ses parfums maghrébins, mais aussi du Proche-Orient. Donc c'est un mariage entre les cuivres et la section rythmique qu'on associe souvent avec le jazz, mais avec des éléments nouveaux de l'Afrique et du Proche-Orient.
Et Chris, parlez un peu de Mary's Underground à Sydney, où aura lieu ce concert. C'était The Basement autrefois.
Tout à fait, oui. Et moi, quand j'étais tout jeune, enfant, à Sydney, en Australie, je suis allé dans les années 80 pour écouter les plus grands jazzmen du monde qui venaient, s'ils venaient, parce que c'était pas si souvent que ça, mais s'ils venaient en Australie, c'était pour jouer au Basement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de festivals, il n'y en a toujours pas, hein, des festivals de jazz en Australie. Mais The Basement, c'était vraiment la référence. C'était le club, la salle de concert mythique où on pouvait écouter Keith Jarrett ou George Coleman ou Freddie Hubbard, le grand trompettiste américain. McCoy Tyner, il y a beaucoup de musiciens qui sont venus qui jouaient en Australie et c'était toujours au Basement. Et donc moi, j'avais entendu ces musiciens parmi d'autres. Et c'est un club qui a eu ces moments difficiles, qui a été fermé plusieurs fois, qui a été repris, réouvert, qui a changé de nom. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle Mary's Underground, mais pendant longtemps, c'était The Basement. Et c'est un club, comme le nom nous indique, qui est sous-sol, à Ryby Place, près en bas de Macquarie Street, dans la city de Sydney, près du Circular Quay. Et il y a quelque chose, peut-être à cause de ces musiciens qui ont joué, il y a une ambiance quand même. Il y a un beau son, il y a une belle scène, il y a des tables. C'est un peu Supper Club, un peu le Ronnie Scott's ou un peu le New Morning qu'on trouve à Paris, de Sydney. Voilà.
Très bien. Et pour vous, Chris, pour vous après, quels sont un petit peu les projets à venir? Est-ce que vous avez des concerts, des tournées en perspective?
Mais maintenant, je vais tout mettre sur ce projet-là, justement, des Outsiders, parce que, figurez-vous, je viens de terminer la composition il y a une semaine à peu près. Ouais. Donc, l'encre sèche encore. C'est vraiment un tout nouveau projet. C'est la première, donc, de cette musique pour octet ce samedi soir. J'avais jusqu'à là juste fait des esquisses et un concert en quartet, mais c'est pas la même chose. Donc là, j'ai tout réécrit. Donc je vais trouver des dates, faire une tournée. Si on peut, avec Covid et tout ça, ça va être compliqué encore pour l'Europe. Mais j'espère au moins d'aller jouer à Melbourne, à Brisbane, peut-être en Nouvelle-Zélande. J'ai pas mal joué en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que les thèmes quand même sont même si l'inspiration c'était Covid et la pensée de Camus, je pense que la musique et les thèmes quand même sont universels. Et c'est une musique qui devrait plaire à un grand public. Donc je vais continuer à composer, à travailler. Je fais d'autres concerts en même temps avec d'autres groupes. Ça m'arrive aussi de faire parfois des concerts classiques. J'enseigne, donc j'ai pas mal de projets en ce moment. Mais là, je vais surtout chercher à trouver des dates pour ce nouveau projet, cet octet The Outsider.
Chris Cody, toujours un plaisir de vous avoir sur SBS French. Meilleurs vœux, bonne continuation. Et on peut vous suivre sur chriscody.com.
Exactement, chriscody.com, aussi sur Facebook, Chris Cody, Chris Cody Music. Sur Instagram, on doit tous passer par là de nos jours, les social media, tout ça, mais bien sûr, et normalement, c'est Facebook, c'est un bon outil pour annoncer les dates et les futures dates et des enregistrements, tout ça.
Merci à vous, Chris, et à très bientôt.
Merci beaucoup et à bientôt. Merci, Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Voyage à Paris avec Wassis Diop. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Des tests génomiques montrent que les deux cas de COVID-19 à Sydney sont de la variante Delta, alors que les autorités exhortent les habitants à faire preuve de prudence. Et premier sommet entre le président Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Et en France, levée des restrictions sanitaires plutôt que prévu sur fond de campagne électorale. Voilà, ceci nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre compagnie. Prochain programme en français, c'est ce samedi. Et je vous conseille entre-temps de continuer la conversation sur les réseaux sociaux, car nous sommes présents sur Facebook et Twitter. Et aussi de consulter notre site internet sbs.com.au/French. Vous y trouverez des rubriques qui ne sont pas encore passées sur antenne ou d'autres rubriques qui ne seront jamais sur antenne, mais que nous vous présentons exclusivement en ligne. Voilà, merci, bon appétit si vous êtes toujours à table et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.